Vous êtes sur France Culture, les informations de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Quand l'écologie se heurte à l'économie, François de Rugy, nouveau ministre de la Transition écologique, croit pouvoir les concilier. Ce matin pourtant, au Havre, le plus gros porte-conteneur sera inauguré. Un monstre polluant, dénonçait Nicolas Hulot. Nous y reviendrons. Dans cette édition encore, parole de l'ancienne professeure d'histoire-géographie de Clément Méric, mort il y a 5 ans face à l'extrême droite. Elle souhaitait rappeler à la barre hier que le militant voulait convaincre et non pas imposer son jugement par la violence. L'envoyé spécial de l'ONU à Genève parle d'une lueur d'espoir pour le Yémen. Les pourparlers de paix doivent s'ouvrir cette semaine alors que la population yéménite continue de souffrir. Et puis nous prendrons des nouvelles de Manuel Valls dans cette édition, de plus en plus présent dans la vie politique espagnole. C'est le plus gros porte-container battant pavillon français, le Saint-Exupéry, un navire de 400 mètres de long, 60 mètres de large, inauguré donc ce matin au Havre en présence des ministres Elisabeth Borne et Bruno Le Maire. Une présence qui sera sans doute remarquée une semaine après les propos tenus par Nicolas Hulot. Avant sa démission du ministère de la Transition écologique, Nicolas Hulot s'en était pris à ses porte-containers extrêmement polluants, Maxime Deps.
Nicolas Hulot a beau dire ce qu'il a dit, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire avaient prévu de venir de toute façon, présence qu'il justifie par le rôle central du transport maritime dans l'économie mondiale. 90% des produits du quotidien transitent par la mer, de quoi pousser les armateurs à toujours voir plus grand, parfois jusqu'à en perdre le sens des réalités. Olaf Merck, qui est spécialiste du transport maritime à l'OCDE.
C'est à la fois magnifique, mais aussi un peu maléfique finalement. Ces navires, ils polluent les émissions de gaz à effet de serre pour le secteur maritime en total. C'est la même grandeur qu'un pays comme la Corée.
Autre comparaison, celui de France Nature Environnement, pour qui un cargo pollue autant que 50 millions de voitures. Celui inauguré aujourd'hui a été conçu pour consommer le moins d'énergie possible, mais du chemin reste à faire.
C'est ça l'enjeu. Est-ce que c'est possible de faire beaucoup plus propre? Bon, on fait des petits pas. Mais finalement, le défi, c'est de faire des pas beaucoup plus importants, de réfléchir à des carburants alternatifs, etc., qui doivent mener à une réduction des émissions beaucoup plus importantes.
Sur ce sujet, l'Organisation Maritime Internationale s'est fixé l'objectif de réduire les émissions de CO2 du secteur d'au moins 50% d'ici 30 ans, dans un monde où les échanges vont encore s'intensifier. Tout ça n'ira pas sans une volonté politique au moins aussi grande que ces nouveaux géants des mers.
Alors l'économie peut-elle, doit-elle s'adapter au changement climatique? C'est en tout cas ce que prône le nouveau ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Selon une étude de la Commission mondiale sur l'économie et le climat, cette économie verte pourrait d'ailleurs augmenter la productivité mondiale. 22 000 milliards d'euros de recettes supplémentaires possibles d'ici 2030, avec la création de 65 millions d'emplois. Laurence Toubiana, présidente de la Fondation européenne pour le climat, était hier soir l'invité du journal de 22h sur France Culture. Et au micro de Stanislas Vazak, elle dénonçait les énergies fossiles et nucléaires.
C'est une impasse. Aujourd'hui, on a vu d'ailleurs que plus de la moitié des investissements dans l'énergie en 2018 ont été vers les énergies renouvelables. Les coûts de ces énergies continuent à baisser de façon continue. Et en même temps, toutes les limites techniques que nous rencontrons encore, le problème du stockage de l'électricité devient de plus en plus mineur parce que les technologies de l'information, les réseaux et un certain nombre de solutions technologiques qui viennent appuyer le développement de ces renouvelables. Donc y compris en France, l'énergie renouvelable française, elle est moins chère que l'énergie nucléaire aujourd'hui.
Mais l'énergie nucléaire a tout de même l'avantage de ne pas provoquer des gaz à effet de serre.
Bien sûr. Et c'est évidemment la seule raison d'être de l'énergie nucléaire, mais elle est devenue aujourd'hui pour toutes sortes de raisons, et notamment deux éléments, la gestion de ses déchets d'une part, et le coût de sécurité de l'autre, puisque les différents accidents nucléaires ont amené, et c'est heureux, à renforcer beaucoup les mesures de sécurité sur les centrales, font que c'est une énergie chère.
Laurence Toubiana avec Stanislas Vazak. La course au perchoir a commencé au lendemain de la nomination de François de Rugy au ministère de l'écologie. 6 députés sont candidats pour être président de l'Assemblée nationale, une insoumise ainsi que 5 députés La République en marche. C'était encore une très longue journée d'audience hier à la cour d'assises de Paris qui juge 3 anciens skinheads accusés d'avoir participé à la mort de Clément Méric le 5 juin 2013 lors d'une bagarre à Paris entre militants d'extrême droite et antifascistes. Les policiers chargés de l'enquête se sont succédés à la barre jusqu'au témoignage de l'ancienne professeure d'histoire-géographie de Clément Méric, Gaëlle Parvillers, à qui le jeune homme avait demandé de l'aider à préparer Sciences Po.
Ce qui nous a tous frappé, ces professeurs, c'est son intelligence et sa volonté de comprendre le monde. C'était quelqu'un qui sur des sujets sensibles comme la colonisation ou la guerre d'Algérie ou les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, a été capable, dans des copies, d'adopter la distance critique propre à l'histoire. Je savais qu'il avait un idéal, qu'il avait envie quelque part de changer le monde, mais voilà, jamais je n'imaginais la radicalité de son engagement à l'extrême gauche. Pour moi, c'était surtout quelqu'un qui voulait convaincre et non pas imposer son jugement. Et quand je pense à lui, si vous voulez, pour moi, ses armes, ce n'étaient pas les poings, c'était vraiment la vivacité et l'élégance de son esprit. Si on peut retenir de lui, et si les jurys, si j'ai pu faire comprendre aux jurys que Clément, c'était quelqu'un qui voulait convaincre et non pas imposer, ben je ne serais pas venue pour rien de si loin.
Gaëlle Parvillers au micro de Florence Sturm. Le procès doit durer 10 jours. Ce procès-là se tient après une rixe qui n'a pas fait de victimes mais qui a perturbé l'aéroport d'Orly le 1er août dernier. Retard de vol, 50 000 euros de dégâts. Il s'agit de la bagarre entre 2 rappeurs et leur clan, Booba et Kaaris. Filmée, elle avait fait le tour des réseaux sociaux. Le procureur s'attend cet après-midi à une éventuelle cohue devant le tribunal de Créteil où les 2 hommes seront jugés. La tribune publiée dans le New York Times hier soir est explosive. Un haut responsable du gouvernement américain explique comment il fait pour lutter de l'intérieur contre, dit-il, écrit-il, les pires penchants de Donald Trump. Le texte est intitulé « Je fais partie de la résistance au sein de l'administration Trump ». Le président américain a évidemment immédiatement réagi sur Twitter cette nuit. Selon lui, c'est une tribune lâche et très malhonnête. Nous en venons maintenant à cet espoir de paix au Yémen. En tout cas, doit s'ouvrir cette semaine des discussions à ce propos à Genève. Discussions avec les 2 parties, les rebelles houthis et le gouvernement, appuyé par la coalition saoudienne. Un espoir de paix après 3 ans et demi de combats et de blocus. La liste des pénuries est longue au Yémen. Manque de nourriture, d'eau, d'électricité, de médicaments. Ghassan Aboushar est l'ancien chef de mission Médecins sans frontières dans le pays. L'aide humanitaire, dit-il, arrive péniblement sur place.
Tout genre d'aide humanitaire arrive au Yémen aujourd'hui, mais avec une difficulté. Le port de Hodeïda est possible, mais avec difficulté administrative. Le port de Aden, qui est aujourd'hui utilisé pour nos médicaments, par exemple, pour entrer dans le pays, c'est aussi, il y a une ligne d'attente et aussi des difficultés de transporter ces médicaments du sud de Aden jusqu'au nord. La route jusqu'à le nord, il faut passer entre 2 zones, une contrôlée par le gouvernement légitime, une contrôlée par les forces aussi. Il y a une ligne de front à passer avec des checkpoints différents. On trouve que les aéroports, les ports doivent être ouverts pour le commerce normal, pour que la population a du travail, a de l'argent pour pouvoir avoir les nécessités basiques de leur vie.
Ghassan Aboushar de Médecins sans frontières avec Nadine Epstein. Manuel Valls va-t-il briguer la mairie de Barcelone? Cela y ressemble bien. En tout cas, l'ancien Premier ministre français qui s'est clairement positionné contre l'indépendance de la Catalogne. L'ancien Premier ministre est à Barcelone aujourd'hui. Barcelone où des municipales auront lieu en mai prochain, Mathieu de Taillac.
Ira-t-il ou n'ira-t-il pas? Le suspense de l'éventuelle candidature Valls qu'il fait durer depuis avril dernier devrait prendre fin dans quelques jours, quelques semaines tout au plus. Manuel Valls a promis une décision en septembre et ce soir il parlera en public à l'occasion de la présentation d'un livre sur l'indépendantisme catalan dont il signe la préface. Ce n'est sans doute pas là la meilleure opportunité pour annoncer une candidature, mais en attendant Valls multiplie les petits pas qui le rapprochent de la capitale catalane. Le député de l'Essonne a annoncé hier qu'il allait donner des cours dans une grande école de commerce et de droit à Barcelone. Barcelone. Le sujet, les processus migratoires et la géographie urbaine. L'ESAD, l'école en question, précise dans un communiqué que les élèves pourront connaître son expérience en matière de politique européenne d'immigration et d'intégration sociale des migrants avec le cas de la France. Fin de citation. Un programme qui a suscité les moqueries de certains indépendantistes sur les réseaux sociaux, qui rappelle sa gestion polémique de la question migratoire quand il était ministre de l'Intérieur. Car Manuel Valls, en Catalogne, divise assez nettement les électeurs. Les indépendantistes le ramènent à ses difficultés à exister politiquement en France. Les unionistes soulignent au contraire son expérience internationale et sa capacité de travail. Les premiers le présentent comme un parachutiste et veulent croire qu'il n'a aucune chance. Les seconds adorent qu'un Français né à Barcelone défende pied à pied et en catalan sa vision européenne de Barcelone.
Seule la Bretagne et la Normandie seront au sec ce matin. Partout ailleurs, le temps s'annonce chargé en averse avec des orages sur le sud-ouest notamment. Le calme doit revenir en fin de journée. Les températures se rafraîchissent. Comptez ce matin 17 degrés au Mans, 19 à Bordeaux et à Paris, 22 à Grenoble, 26 à Toulon.